Bonjour, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs viennent sonder l'intérieur et l'extérieur de nos vies en sons, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres ? Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de garder tes volets fermés ou de laisser entrer la lumière.
Examinateur, c'est pas un métier. Ils veulent tous avoir leur permis, ils se donnent même pas la peine d'apprendre le code de la route. Enfin, avec moi, pas question de passe-droit. Premier candidat. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous.
Bonjour, monsieur.
Monsieur, vous vous trouvez sur une route à grande circulation, n'est-ce pas ? Vous croisez une route départementale, dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal, oui. Qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le bas-côté d'une route secondaire, parallèle à celle que vous venez d'éviter, en empruntant le trajet inverse de celui inscrit sur un panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, que faites-vous ? Hein ? Ben, je vous ai posé une question précise, monsieur, je vous prie de répondre. Hein ? Oui, bon, vous ne savez pas. Eh bien, vous reviendrez dans 3 mois, monsieur. Recalé, merci beaucoup. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Dégagez parce qu'il y a d'autres candidats, monsieur, merci. Oui, c'est ça, bravo.
Candidat suivant.
Suivant.
Oh, une seconde. Il n'y a pas de feu, là.
Mais non, monsieur le gars.
Pas pousser papa, là.
Oui, oui, monsieur, oui.
Faut pas jouer avec l'âme.
Oui, asseyez-vous.
On a le temps de prendre un petit remontant avant l'examen, non?
Bien sûr, monsieur, bien sûr.
On n'est pas des animaux, quand même.
Vous êtes bien installé, ça va comme vous voulez.
Ben, ça me gêne un peu les genoux, là.
Ah oui, oui, c'est une petite voiture.
Ben oui, puis j'ai des gros genoux, alors ça me gêne les genoux.
Oui, oui. La prochaine fois, on prendra un autocar.
Ben, il y a intérêt, parce que je changerai pour mes genoux.
Bon, monsieur, première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous ?
Est-ce que je sais, moi ?
Ah ben, vous feriez bien de savoir. Vous montez dans votre voiture, elle ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites ?
Eh ben, je descends.
Ah oui, la manivelle.
Non, je descends, puis je file un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. Et après, j'ouvre le capot, je prends une clé à molette et je casse le moteur en 1000 morceaux. Je frappe, je cogne. Parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille, hein. Et puis pas par autre chose non plus, d'ailleurs. Suis-je assez clair?
Bon. Autre chose, monsieur.
Ouais.
À présent, vous arrivez à un carrefour. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter.
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites?
Je passe. Je passe et puis j'y roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma poire et j'y balance un bon coup de pompe dans la poire par la même occasion. Parce que c'est pas un flic qui va faire la loi, non? Prenez pas tout le siège.
Bon, maintenant, vous êtes sur une route départementale.
Ah, ben, ça m'étonnerait.
Qu'est-ce que vous dites?
Je dis, ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale.
Mais...
J'y vais jamais sur les routes départementales.
Ah, mais...
C'est plein de boue et ça sent mauvais.
Oui, j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition. Vous êtes sur une route départementale?
Non. Je suis pas sur une route départementale. Je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. J'ai les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer les mandales dans la tronche à tout ce qui remue.
Mais en admettant...
Oh, je vais me le farcir.
Quoi?
Ah, je vais être obligé de me le farcir, le petit asticot. Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions.
Ben, oui, mais...
Est-ce que je vous en pose des questions?
Non.
Ou est-ce que je vous en pose?
Non, monsieur.
Ah? Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites s'il se passe ceci? Qu'est-ce que vous faites s'il se passe cela?
Du tout, monsieur.
Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale?
Ah, mais qu'est-ce que j'irai faire?
Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti?
Ouais?
Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je l'ai remue? Hein? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis, oui ou non? Ah! Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, hein?
Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires en dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi, je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus, d'abord parce que je n'ai pas de sous, ensuite au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous là-dessus. Et un jour, que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous, je l'ai su parce que d'en dessous on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus, et comme ils étaient tous les deux sous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus.
La femme des uns, sous le corps des autres, a des soupirs de volupté. On s'en fout quand c'est pas la nôtre, mais celle des autres. D'abord on se dit vous, et puis on se dit tout. On s'envoie un verre, on s'envoie en l'air, et tout là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut, on regarde en bas, et qu'est-ce qu'on y voit? La femme des uns, sous le corps des autres, et on commence à s'inquiéter. On se dit que si c'était la nôtre, là qui se vautre, on lui ferait passer le goût de recommencer, et pour changer d'air, on l'enverrait faire un tour là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut, et pour se consoler, alors on irait voir la femme des autres, et quand elle est écarterait les bras, on se dirait elle est comme la nôtre, la femme des autres. On irait chasser dans les beaux quartiers et dans l'ascenseur, on ferait le joli cœur. Et tout là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut, venu d'Amérique, y aurait de la musique. Pin-up, il faut des pick-up, faut pour les soulever, pour les envoyer là-haut, 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 tout là-haut, là-haut, des disques longue durée, haute fidélité, haute fidélité, haute fidélité, haute fidélité.
Octobre 1925, Paris. Chère maman, je suis bien content d'être rentrée à Paris. À part mon prochain retour dans le Mississippi, rien de plus agréable. Je viens de dîner superbement pour 32 cents aux Trois Mousquetaires, un de mes lieux habituels. La cuisse de lapin rôti, j'ai plaisanté la serveuse, mais je ne crois pas que c'était du chat. Du chou-fleur au fromage, des figues et des noix, et un verre de vin. Le restaurant est une sorte de club. C'est petit, on y voit les mêmes personnes tous les soirs. Un jeune couple français bien tranquille, une dame qui porte un mouchoir de couleur autour du cou et une casquette d'homme style guap, un vieil anglais qui habite Paris depuis 50 ans et un jeune photographe américain et moi. J'ai encore été arrêtée à Dieppe pour la 6e fois depuis mon arrivée en France. Je ne sais pas ce qui peut bien me rendre suspect. Je dois avoir une sale tête ou c'est mon trench coat ou je ne sais quoi. Je ne faisais pourtant rien de particulier. J'étais là sur le quai à regarder le déchargement d'un bateau de pêche et à manger un morceau de pain quand voilà le gendarme qui arrive à bicyclette. « Vos papiers, monsieur !»« Bien, monsieur. » Je présente mon passeport, il l'ouvre à l'envers. « Votre être anglais ?»« Non, monsieur, américain. » Je mets le passeport dans le bon sens. « Ha ha !» dit-il du ton « Vous êtes fait, mon gaillard !» Il examine les mots anglais sur mon passeport, puis il me regarde à nouveau. « Que faites-vous, monsieur ?» La même chose que faisaient tous des messieurs par là. Je lui réponds, en désignant une bonne douzaine de personnes qui en font encore moins que moi. « Ha ha ! Alors venez avec moi au bureau !» C'est un peu une marche triomphale. Il pousse sa bicyclette et moi j'avance à son côté en mangeant mon pain. J'ai été si souvent arrêtée que je suis blasée maintenant. Toute la ville de Dieppe s'arrête de ne rien faire et accourt à sa porte ou à sa fenêtre pour me voir. Et trois gamins mal lavés nous emboîtent le pas. Quand nous arrivons au bureau, il y en aura une dizaine. Ils me prennent probablement pour Lénine. Le sergent prend mon passeport des mains du gendarme qui m'a fait prisonnier et examine longuement les mots anglais. Ils échangent des paroles à voix basse, tandis que les spectateurs retiennent leur souffle. Le sergent me dit « Vous êtes anglais ?»« Non, je lui réponds, je suis américain, comme le dit le passeport. »« Ha ha ! Qu'est-ce que vous faites à Dieppe ?»« Rien, je visite Dieppe avant de marcher vers Paris. »« Vous allez à Paris ?»« Certainement. »« De quel endroit arrivez-vous ?»« De Londres. »« Ha ha ! Et pourquoi arrivez-vous de Londres ? Pour aller à Paris. Ha ha ! Ils examinent à nouveau le passeport et me regardent. Ça y est, mon compte est bon. Quel jour êtes-vous arrivé à Dieppe ? Je donne la date et il me dit. Mais c'est de Suisse que vous arrivez. Mais on peut arriver de Suisse et arriver d'Angleterre en l'espace d'une vie, non ? Ils examinent à nouveau le passeport et le sergent dit. Il est parti de Dieppe le 4 octobre. Mais il est revenu, signale l'autre. Le sergent me regarde à nouveau fixement et finit par admettre que je suis revenu. Je commence à penser comme lui qu'il faut être totalement innocent pour revenir à Dieppe. Et puis le sergent dit « Fouillez-le !» Et l'auteur de la prise se met à fouiller mes poches, sans doute à la recherche de bombes. Il me prend mon argent, mon canif, tout. Les spectateurs sont déçus, je le sais, mais ils n'ont pas perdu tout espoir et attendent, tandis que le sergent emporte mes affaires dans une autre pièce. Il revient les mains vides et pendant une demi-heure, ils restent assis tous les deux à m'observer. Le public se fatigue et disparaît peu à peu. Et après un moment, arrive un autre gendarme, tout couvert de galons dorés. Il tient mon passeport à la main et me dit « Vous êtes un Vreiter, monsieur ?»« Oui, monsieur. » Il jette un nouveau regard sur le passeport. « Qu'est-ce que c'est, Vreiter, monsieur » demande-t-il d'un ton plutôt aimable. Je lui explique et il dit « Ah, poète !» Il parle aux autres à toute vitesse et je récupère aussitôt mes affaires. « Vous êtes libre, monsieur, me dit-il. Partez et bon voyage. » Il faut pas mal de stupidité pour faire correctement son travail, mais c'est particulièrement vrai pour les flics. J'écris toujours, je vais rapporter des pages et des pages à la maison. Billy, Paris, le 21 octobre 1925.
Bipède volupteur de lyre, épouse châtrée de polymnie, férolée de lune à confire, grand-duc bouillon des librairies, maroufle, appendre à l'hexamètre, voyou décliné chez les Grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète, vos papiers, poète, vos papiers. Je bu du Waterman, et je bouffé litré. Et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un axe. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne et j'ai joué au casino. Les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condits modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore cuic-cuic, sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, chair à flic, colis en souffrance à la veine, remords de la légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine, Don Quichotte du crève-cœur, poète, vos papiers. Poète, papier, le dictionnaire et le porto à découvert, je débourre des mots à longueur de pelure, j'ai des idées au frais de côté pour l'hiver, à rimer le beefsteak avec les engelures. Cependant que Zara enfourche le bidet, à l'auberge dada la crotte et littéraire, le vers est libre enfin et la rime en congé, on va pouvoir poétiser le prolétaire. Spécialiste de la mistoufle, émigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle, sous la table du nirvana, meurt de faim qui plane à la une, écrivain public des croquants, anonyme qui s'en tribune, à la barbe des continents, poète, vos papiers, poète, documenti, littérature obscène, inventée à la nuit. Onanisme torché au papier de Hollande. Il y a partout Almistiche, mes amis. Et que m'importe alors Jean Genet, que tu bandes. La poétique libérée, c'est du bidon. Poète, prends ton verre et fous-lui une trempe. Mets-lui les fers aux pieds et la rime au balcon. Et ta muse sera sapée comme une vente. Citoyen qui sent de la tête, papa gâteau de l'alphabet, maquereau de la clarinette, graine qui pousse des gibets, châssis rouillé sous les démences, corridor pourri de l'ennui, hygiéniste de la romance, rédempteur falot des lundis, poète, vos papiers, poète. Que l'image soit robe et l'épithète au poil, la césure sournoise certes, mais correcte, tu peux vêtir ta muse ou la laisser à poil. L'important est ce que ton ventre lui injecte. Ces seins oblitérés par ton verre barlequin gonfleront goût. La voile haute devanture, solidement gainée, ta lyrique putain, tu pourras la sortir dans la littérature. Ventre affamé qui tend l'oreille, maraudeur aux bras déployés, pollen au rabais pour abeilles, tête de mort rasée de frais, rampant de service aux étoiles, poitre qui fait dans le quatrain, masturbé qui vide sa voile à la devanture du coin. Poète, circulez, poète, Circulez, poète! Circulez!
Dimanche 28 avril 1918, New Haven. Petite maman chérie, j'espère que tu as bien reçu tes fleurs. Phil et moi avons fait télégraphier pour qu'elles te soient expédiées de Memphis. Aujourd'hui, Phil et moi, nous portions chacun notre œillet rouge. Presque tout le monde, sauf les misanthropes, en portait un aujourd'hui, même si le temps était maussade et plutôt froid. À l'hôtel Oneko, ce soir, il y avait un Tommy blessé qui avait la Distinguished Conduct Medal et une jambe raide. Il avait l'air d'un Américain, c'en était peut-être un, mais de toute évidence, il avait participé au grand cirque. Ça produit un effet curieux de marcher dans les rues et de voir ces gens, des Polonais, des Russes, des communistes italiens, tous avec un petit drapeau américain à la boutonnière. Et on dit que Dieu a créé l'homme à son image. On a projeté un film sur la guerre produit par le gouvernement français, mais je l'ai su trop tard pour aller le voir. Hier soir, j'ai vu Martha Hendman dans The Boomerang. Souviens-toi, nous avons vu cette actrice au cinéma à Oxford. Hier après-midi, Phil et moi, nous sommes allés jusqu'à East Rock. C'est à environ 70 mètres d'altitude. Et de là-haut, on domine tout un paysage qui s'étend au-delà de New Haven jusqu'à la mer. Il y a des phares minuscules, aussi raides et aussi blancs que des bâtons de craie, et un vapeur du Sound est venu accoster. On aurait dit un jouet, un petit bateau d'enfant sur un miroir. Le jour était si clair qu'on voyait les maisons de Long Island. Les petits voiliers ressemblaient à des rubans de fumée et l'eau était du bleu, le plus bleu que j'ai jamais vu. Je me suis remis à écrire des poèmes. Phil en a envoyé quelques-uns à un magazine, je t'en envoie copie. Pour ce qui est des vêtements, envoie des chemises, des chemises, des chemises. Et maman, s'il te plaît, fais-les avec un seul bouton de colle et non deux. Pour que le col soit plus bas, les blanchisseurs ont la mauvaise habitude de faire sauter les boutons en repassant les chemises. Ça simplifiera mon raccommodage. Dis à Dean d'écrire pour me dire où en sont ces bonbons et embrasse Sally de ma part quand tu la verras. Je t'aime plus que tout au monde.
Je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière. Quelque chose de l'allumeuse, oh, et quelque chose de la merde. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours
chez les Yakoutes, on dit que l'arbre monde est la demeure du créateur et de la déesse d'or. Le grand mélèze, Arkoudoukmas, figure l'échelle empruntée par les chamans pour naviguer de notre monde jusqu'aux profondeurs et aux régions célestes. Ancêtre des hommes, il porte chaque destin sur chacune de ses feuilles. On raconte qu'au centre de tout, aux nombriles montagnes du monde, au milieu d'un lac de lait, poussa le plus beau de tous les arbres de la terre. Il était à lui seul une forêt portée par un tronc unique. Ses 8 branches s'élançaient vers les horizons, sa cime se perdait dans les étoiles et ses racines plongeaient dans des royaumes souterrains. Il était solitaire depuis des temps sans âge, savourant les fruits des trois mondes. Un jour, un jeune homme à la tunique immaculée gravit la pente de la montagne, traversa le lac de lait et s'agenouilla au pied de l'arbre avec un grand respect. « Esprit de l'arbre forêt, j'ai beaucoup marché pour arriver jusqu'à toi. J'ai posé mes pas dans la fourrure de lapin blanc qui tombe en flocons du ciel. J'ai vu des canards deux par deux, des couples de grands rennes. J'ai observé les écureuils, les renards, les hermines. J'ai vu les ours et les loups. Chacun est pour l'autre un compagnon. Et leurs petits dansent. Ma joie était si grande de venir jusqu'ici, je l'ai brûlée en mesurant combien j'étais seule. Existe-t-il en ce monde un être avec qui je puisse parler et partager une même vigueur? Même le rat musqué a de la tendresse à offrir avec son museau. Fais comme bon te semble, mais bénis-moi et ôte-moi ce lourd fardeau. » Le jeune homme passa toute la nuit la tête posée sur l'écorce d'or, mouillant de ses larmes le tronc doré. Au matin, un voile bleuté tel une nuée descendue de l'arbre. L'écorce se fendit, sa résine d'or coula, sa sève d'argent transpira et une forme émergea. Une tête, un cou, des seins, un ventre blond. Les yeux brillaient d'une douceur incomparable, les cheveux flottaient au vent, la voix semblait du miel. « Sais-tu d'où tu viens ? » dit-elle. « Non. Si je venais du ciel, j'aurais des ailes ou du givre sur mes cheveux. Si j'étais née là où je marche, j'aurais de l'herbe sur ma peau. Si j'étais sortie de terre, je serais fait de limon. Non, je ne sais pas d'où je viens. Tu appartiens aux trois mondes. Tu es comme cet arbre forêt à qui tu as offert ton eau et ta prière. Tu as la tête qui pointe vers les confins des mondes et les pieds posés sur la terre. Un être doté de racines profondes qui puise l'énergie des univers. Après quoi, la jeune fille née de l'arbre lui dit qu'il ne serait plus seul désormais, que premier de sa sorte, il était l'ancêtre de tous les hommes à venir, le premier-né, le fils du roi du ciel et de l'essence de l'arbre forêt. Souple, elle sortit tout entière du tronc du grand mélèze et ils s'effleurèrent faisant frémir les feuilles. Quelque part, des myriades d'âmes curieuses et impatientes d'explorer le monde soupirèrent, tels des bourgeons près d'éclore.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit, tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain je m'éveille dans mon lit, donc j'avais rêvé, oui car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la... Tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
Anako avait 16 ans et depuis la mort de son père, elle vivait dans un village de pêcheurs, sur la côte de la mer intérieure de Seto, face aux petites îles. Sa mère dévouée et attentive travaillait sans relâche. Pour l'aider, elle trouva une place de servante en ville et pour ne pas la laisser seule, elle partait tôt et rentrait à la nuit tombée. Anako ne se plaignait jamais. Elle profitait des heures de marche pour priser les saisons, les formes fugitives des nuages et le balai des oiseaux. À mi-parcours, elle s'arrêtait sous un châtaignier de belle allure, géant dont émanait une paix totale. Par tous les temps, elle déposait des chandelles et s'adressait à l'âme de l'arbre. Elle se confiait, devisait sur ses rêves, sur les mystères qui traversent les êtres. Elle lui parlait de sa mère, de son courage et de sa bonté, des rides qui apparaissaient sur son visage et de son dos qui se courbait. Tout en se révélant, elle caressait l'écorce, la nettoyait de la terre et des feuilles séchées, prenait soin des racines, se réjouissait du spectacle des bourgeons, des fleurs et des bogues, remerciait pour les fruits délicieux. Au fil de 3 années, elle finit par effacer toute différence entre sa propre nature et celle de l'arbre. Un soir qu'elle rentrait chez elle, un violent orage éclata, la contraignant à rester plus longtemps sous la voûte à large feuillage. La pluie avait beau fouetter le sol, le tonnerre gronder, la foudre illuminer la plaine, elle se sentait à l'abri dans les bras puissants, enchantée du ruissellement mélodieux qui dévoila bientôt tout un langage. Elle entendit la voix mouillée de l'arbre. Toute petite sœur, ma douce camarade, l'orage est descendu pour que je puisse parler. Ô Anako, toi qui as veillé sur mon écorce et sur mon âme, qui as illuminé mes branches avec tes chandelles, tes prières et ta bonté, écoute-moi. Le temps est venu de nous séparer. Les bûcherons du Damio vont m'abattre. Ils veulent faire de moi une jonque de haute mer. Mon bois va devenir bateau, cabine, mât. Les artisans vont affluer et on m'en construira dans ton village. Dans 3 mois, on voudra me pousser à l'eau. Le daimyo lui-même assistera à la cérémonie, mais je ne bougerai pas. Non par bravade, mais pour te venir en aide. Ta présence et ta voix m'ont toujours émue, mais plus encore le soin que tu donnes à ta propre mère. Pour cette moitié de ton repas de midi que tu lui rapportes chaque soir dans ton sac, je veux et j'ai le pouvoir d'améliorer ton sort. Ainsi, je ne bougerai pas. Ils seront 100 à me tirer, en vain. Le Seigneur offrira une récompense à celui qui trouvera un moyen de contrer le sort. Tu attendras que les vigoureux marins se soient épuisés et que les conseillers du palais à court d'idées se retirent, puis tu t'avanceras. On se moquera un peu de toi, mais comme tu es si pure et si bonne, on te laissera m'approcher. Tu diras, c'est moi, Anako, je viens vers toi comme au beau jour, et je glisserai tout seul dans l'eau. Adieu, petite sœur, ne sois pas triste, tu verras. Ce sacrifice aura un effet bénéfique. Que la bonté t'accompagne toujours, je me souviendrai de toi quand je fendrai les flots. La parole de l'arbre et la pluie s'arrêtèrent en même temps. Anako se demanda si elle avait rêvé et elle rentra soucieuse. Elle n'avait pas rêvé. Le lendemain, elle croisa des hommes du Daimyo et quand elle revint, les bûcherons avaient coupé, élagué et entassé le corps du géant pour l'emporter au village. Elle s'assit sur le tronc à terre, caressa une dernière fois l'écorce et rentra tristement. Ce que le châtaignier avait prédit se réalisa. Les artisans au village, la ferment pour la construction de la jonque, la fête du lancement, la présence du Seigneur. La mise à flot attira beaucoup de monde. Des marchands, des notables, des artistes, des soldats, des marins. Tous festoyaient devant la mer face aux îles. Quand le daimyo, fièrement la main, leva, les hommes tendirent les cordes en vain. Le chef de chantier s'arracha les cheveux, s'égosilla, réclama les bras solides de la foule. Après le désordre et les vaines tentatives, le Seigneur promit sa récompense. Quand les marins les plus aguerris, les moines les plus savants et dévots eurent échoué, Anako s'avança sous les railleries. Mais comme on la connaissait, qu'elle était généreuse et gentille, on s'écarta pour la laisser passer. « Avec votre permission, dit-elle au Seigneur, l'arbre devenu jonque était mon ami. Je crois que son âme serait satisfaite que je procède au lancement. » Avec intérêt, le daimyo acquiesça. Alors la frêle jeune fille s'approcha et dit « C'est moi, Anako, je viens vers toi comme au beau jour. » À peine les mots s'étaient-ils élevés dans le port que la jonque glissa dans l'eau. La joie se répandit parmi la foule, le chef de chantier s'assit enfin, tous louèrent l'intervention inouïe. Plus tard, le Seigneur l'appela au palais. Il avait réfléchi, écouté ses conseillers et recherché la voie des dieux. Il en avait déduit que le châtaignier était un kami, une divinité de l'arbre, peut-être la réincarnation d'un être. Par inconscience, la loi sacrée avait été bafouée et il ne fallait pas que cela se reproduise. Seules des âmes de grande pureté pouvait veiller sur l'harmonie entre les hommes et la nature, décider par elle-même de nouer une corde de riz autour des troncs des divinités afin que nul ne porte le fer sur elle, quelle que fût son autorité. Il nomma la jeune fille, lui alloua une rente et un pavillon pour elle et pour sa mère. Au cours de sa vie, elle noua 500 cordes de riz autour des troncs et le kami devenu jonque fendit longtemps les flots des mers du Japon. Quand il tombe, l'arbre fait deux trous. Celui dans le ciel est le plus grand.
Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi? Et vous venez à ma rencontre?
Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors?
Alors?
Alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi?
Parce que j'ai rendez-vous.
Oh, rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pour quoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre?
Oh, moi, j'aime tout le monde.
Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux.
Est-ce que vous en savez?
Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment?
Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors?
Alors, au revoir, Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laissez tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard.
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Un bout de mémoire, tout ce que le vent m'a laissé. Plein de bouteilles et de guitares, ruines de souvenirs éméchés. Il me reste un bout de mémoire que le temps a fait vaciller, comme la flamme d'une bougie fatiguée. Mais Lulu, faut pas se voiler la face, c'était facile. J'ai un peu abusé de toi et ta vertu. Mais devant moi tu boules, tu tournes et tu défiles. Qu'on n'en parle plus, Lulu. Je me suis trop voilé la face, c'était facile. Un simple sourire de travers et j'y croyais. Mais devant toi je balbutie et me défile. Lâche-moi ton cul s'il te plaît. Y'a une partie de mon cerveau qui a pris un coup, une mandale. Des coups à boire, des lires, des boires et des couronnes matinales. Je sais plus si c'est toi ou moi qui a décidé de se faire la malle et n'a laissé qu'un apaisement, celui de mes parties génitales. Mais Lulu, faut pas se voiler la face, c'était facile. J'ai un peu abusé de toi et ta vertu. Mais devant moi tu brûles, tu tournes et tu défiles. Qu'on n'en parle plus, Lulu. Je me suis trop voilé la face, c'était facile. Un simple sourire de travers et j'y croyais. Mais devant toi je balbutie et me défile. Lâche-moi ton cul s'il te plaît. De ma tête, c'est pas que le vent manque d'air. Y'a des humeurs de girouettes et des courants d'ailes éphémères. Un de tes traits, deux de tes mots et je me perds. Laisse-moi maintenant, tu ne peux plus rien faire. Mais Lulu, faut pas se voiler la face, c'était facile. J'ai un peu abusé de toi et ta vertu. Mais devant moi tu brûles, tu tournes et tu défiles. Qu'on n'en parle plus, Lulu. Je me suis trop voilé la face, c'était facile. Un simple sourire de travers et j'y croyais. Mais devant toi je balbutie et me défile. Lâche-moi ton cul s'il te plaît.
Ma belle dame, le plus beau drame de ma vie, belle dame. Le plus beau drame de ma vie, belle dame. Le plus beau drame de ma vie, belle dame. Le plus beau drame de ma vie, belle dame. Le plus beau drame de ma vie, belle dame. Le plus beau drame de ma vie, belle dame. Le plus beau drame de ma vie, belle dame. Le plus beau drame de ma vie.
Mon esprit s'éveille soudain lorsque je danse dans les nues. J'ai la sensation de te perdre bien que je ne t'ai jamais eu. Et quand le soir éclot enfin que sonne la valse des perdus, qu'on en finisse, ou plutôt que j'y pense plus, mais Lulu,
faut pas se voiler la face, c'était facile. J'ai un peu abusé de toi et ta vertu. Mais devant moi tu brûles, tu tournes et tu défiles. Qu'on n'en parle plus, Lulu. Je me suis trop volé la face, c'était facile. Un simple sourire de travers et j'y croyais. Mais devant toi je balbutie et me défile. Lâche-moi ton cul s'il te plaît, Lulu. S'il te plaît, s'il te plaît, Lulu. S'il te plaît.
Le plus beau drame de ma vie, belle dame. Le plus beau drame de ma vie, belle dame. Le plus beau drame de ma vie, belle dame. Le plus beau drame de ma vie.
Que signifie Prométhée pour l'homme d'aujourd'hui? On pourrait dire sans doute que ce révolté dressé contre les dieux est le modèle de l'homme contemporain et que cette protestation élevée il y a des milliers d'années dans les déserts de la Scythie s'achève aujourd'hui dans une convulsion historique qui n'a pas son égal. Mais en même temps, quelque chose nous dit que ce persécuté continue de l'être parmi nous et que nous sommes encore sourds aux grands cris de la révolte humaine dont il donne le signal solitaire. L'homme d'aujourd'hui est en effet celui qui souffre par masses prodigieuses sur l'étroite surface de cette terre. L'homme privé de feu et de nourriture, pour qui la liberté n'est qu'un luxe qui peut attendre. Et il n'est encore question pour cet homme que de souffrir un peu plus, comme il ne peut être question pour la liberté et ses derniers témoins que de disparaître un peu plus. Prométhée, lui, est ce héros qui aima assez les hommes pour leur donner en même temps le feu et la liberté. Les techniques et les arts. L'humanité aujourd'hui n'a besoin et ne se soucie que de techniques. Elle se révolte dans ses machines, elle tient l'art et ce qu'il suppose pour un obstacle et un signe de servitude. Ce qui caractérise Prométhée au contraire, c'est qu'il ne peut séparer la machine de l'art. Il pense qu'on peut libérer en même temps les corps et les âmes. L'homme actuel croit qu'il faut d'abord libérer le corps, même si l'esprit doit mourir provisoirement. Mais l'esprit peut-il mourir provisoirement? En vérité, si Prométhée revenait, les hommes d'aujourd'hui feraient comme les dieux d'alors. Ils le clouraient au rocher, au nom même de cet humanisme dont il est le premier symbole. Les voix ennemies qui insulteraient alors le vaincu seraient les mêmes qui retentissent au seuil de la tragédie échillienne, celle de la force et de la violence. Est-ce que je cède aux temps avares, aux arbres nus, à l'hiver du monde? Mais cette nostalgie même de lumière me donne raison. Elle me parle d'un autre monde, ma vraie patrie. A-t-elle du sens encore pour quelques hommes? L'année de la guerre, je devais m'embarquer pour refaire le périple d'Ulysse. À cette époque, même un jeune homme pauvre pouvait former le projet somptueux de traverser une mer à la rencontre de la lumière. Mais j'ai fait alors comme chacun. Je ne me suis pas embarquée. J'ai pris ma place dans la file qui piétinait devant la porte ouverte de l'enfer. Peu à peu, nous y sommes entrés, et au premier cri de l'innocence assassinée, la porte a claqué derrière nous. Nous étions dans l'enfer, nous n'en sommes jamais plus sortis. Depuis si longues années, nous essayons de nous en arranger. Les fantômes chaleureux des îles fortunées ne nous apparaissent plus qu'au fond d'autres longues années, encore à venir, sans feu ni soleil. Dans cette Europe humide et noire, comment alors ne pas recevoir avec un tremblement de regret et de difficile complicité ce cri du vieux Chateaubriand à Ampère partant en Grèce? Vous n'aurez retrouvé ni une feuille des oliviers, ni un grain des raisins que j'ai vu dans l'Attique. Je regrette jusqu'à l'herbe de mon temps. Je n'ai pas eu la force de faire vivre une bruyère. Et nous aussi, enfoncés malgré notre jeune sang dans la terrible vieillesse de ce dernier siècle, nous regrettons parfois l'herbe de tous les temps, la feuille de l'olivier que nous n'irons plus voir pour elle-même et les raisins de la liberté. L'homme est partout, partout ses cris, sa douleur et ses menaces. Entre tant de créatures assemblées, il n'y a plus de place pour les grillons. L'histoire est une terre stérile où la bruyère ne pousse pas. L'homme d'aujourd'hui a choisi l'histoire cependant, et il ne pouvait ni ne devait s'en détourner. Mais au lieu de cela servir, il consent tous les jours un peu plus à en être l'esclave. C'est ici qu'il trahit Prométhée, ce fils aux pensées hardies et au cœur léger. C'est ici qu'il retourne à la misère des hommes que Prométhée voulut sauver.
Ils voyaient sans voir, ils écoutaient sans entendre, pareil aux formes des songes. Oui, il suffit d'un soir de Provence, d'une colline parfaite, d'une odeur de sel, pour apercevoir que tout est encore à faire. Nous avons à réinventer le feu, à réinstaller les métiers pour apaiser la faim du corps. L'attique, la liberté et ses vendanges, le pain de l'âme, sont pour plus tard. Qui pouvons-nous sinon nous crier à nous-mêmes ? Ils ne seront plus jamais où ils seront pour d'autres. Et faire ce qu'il faut pour que ces autres au moins ne soient pas frustrés. Nous qui sentons cela avec douleur et qui essayons cependant de le prendre d'un cœur sans amertume, sommes-nous donc en retard ou sommes-nous en avance ? Et aurons-nous la force de faire revivre les bruyères ? À cette question qui s'élève dans le siècle, on imagine la réponse de Prométhée. En vérité, il l'a déjà prononcée. Je vous promets la réforme et la réparation, ô mortels. Si vous êtes assez habiles, assez vertueux, assez forts pour les opérer de vos mains. S'il est donc vrai que le salut est dans nos mains, à l'interrogation du siècle, je répondrai oui à cause de cette force réfléchie et de ce courage renseigné que je sens toujours dans quelques hommes que je connais. Ô justice, ô ma mère, s'écrie Prométhée, tu vois ce qu'on me fait souffrir ? Et Hermès raille le héros. Je suis étonné qu'étant devin, tu n'aies pas prévu le supplice que tu subis. Je le savais, répond le révolté. Les hommes dont je parle sont eux aussi les fils de la justice. Eux aussi souffrent du malheur de tous, en connaissance de cause. Ils savent justement qu'il n'est pas de justice aveugle, que l'histoire est sans yeux et qu'il faut donc rejeter sa justice pour lui substituer autant qu'il se peut celle que l'esprit conçoit. C'est ici que Prométhée rentre à nouveau dans notre siècle. Les mythes n'ont pas de vie par eux-mêmes. Ils attendent que nous les incarnions. Qu'un seul homme au monde réponde à leur appel et ils nous offrent leur sève intacte. Nous avons à préserver celui-ci et faire que son sommeil ne soit point mortel pour que la résurrection devienne possible. Je doute parfois qu'il soit permis de sauver l'homme d'aujourd'hui, mais il est encore possible de sauver les enfants de cet homme, dans leur corps et dans leur esprit. Il est possible de leur offrir en même temps les chances du bonheur et celles de la beauté. Si nous devons nous résigner à vivre sans la beauté et la liberté qu'elle signifie, le mythe de Prométhée est un de ceux qui nous rappellent que toute mutilation de l'homme ne peut être que provisoire et qu'on n'en sait rien de l'homme si on ne le sert pas tout entier. S'il a faim de pain et de bruyère, et s'il est vrai que le pain est le plus nécessaire, apprenons à préserver le souvenir de la bruyère. Au cœur le plus sombre de l'histoire, les hommes de Prométhée, sans cesser leur dur métier, garderont un regard sur la terre et sur l'herbe inlassable. Le héros enchaîné maintient dans la foudre et le tonnerre divin sa foi tranquille en l'homme. C'est ainsi qu'il est plus dur que son rocher et plus patient que son vautour. Mieux que la révolte contre les dieux, c'est cette longue obstination qui a du sens pour nous, et cette admirable volonté de ne rien séparer ni exclure, qui a toujours réconcilié et réconciliera encore le cœur douloureux des hommes et les printemps du monde.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant
« Ça cloche, c'est pas où il est passé. »
« Hein ? » Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur ?
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec.
Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis.
C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas. Oui, oh, 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 oh.
Arthur, où t'as mis le corps?
S'écriaient les inspecteurs.
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur, réfléchis, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, il n'y a plus de preuves, hein? Hein, il n'y a plus de preuves.
On a écopé les ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cognait plutôt mot pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui?
Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait.
Arthur, il en est mort. Et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors Arthur, oui.
Allons mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein?
Aucun nom ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à dire qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne.
Arthur,
es-tu là?
Oui, le corps.
Arthur, où t'as mis ton corps?
Moi, j'ai plus de corps, le corps.
Arthur, as-tu du cœur?
Balotte, les gars, rebalotte et 19 d'air.
Oh. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur.
À l'astre de nos jours, on dédie des tas d'odes. Aux dieux de nos amours, des tas de poésie. Aux femmes de toujours, on consacre la mode. Et aux topinambours, d'âpres monographies. Tout ça est bien injuste. Tout ça me tarabuste. Tout ça me rend très truste. Car tout le monde oublie la chose capitale d'un intérêt majeur qui commande nos vies, comme nos morts d'ailleurs. Élément dominant de la civilisation moderne, instrument agissant qui joue le rôle de lanterne pour les chercheurs de toute espèce, perdus dans la ténèbre épaisse, depuis Platon jusqu'à Lucrèce et de l'oncle jusqu'à la nièce, en passant par les grands de Grèce et par le boulevard Barbès, puisqu'il faut la nommer
la boîte.
Boîte que l'on exploite, boîte large ou étroite et qui s'emboîte ou se déboîte, boîte que l'on convoite, boîte à gauche et à droite, garnie de sueur ou d'ouette. Boîte à malice ou boîte à sel, boîte à huile et boîte à ficelle, baguier, trousse ou boitillon, buste, canastre ou serron, castre, cassette, carton, coffret, drageoir, esquipeau, droguier, fourniment, fourreau, carré, coutelière ou barse, galon, giberne et grimace, utricule ou vésicule, pixide ou boîte à pilule, boîte à poudre d'escampette, boîte à outils, à gâteau, boîte à onglet, boîte à lettres, tabagie, boîte saunière, boîte avant ou boîte arrière, de vitesse, de lenteur, boîte à prendre les souris, tiroir, layette ou trémie, boîte à buter les facteurs. Boîte! On peut tout mettre dans les boîtes. Des cancrelats et des savates, ou des œufs durs à la tomate, et des objets compromettants. On peut y mettre aussi des gens, et même les gens bien vivants. Oui, décidément, la boîte est bien le plus indispensable des progrès faits depuis le temps que l'on nomme préhistorique, faute d'un terme plus subtil, pour désigner la vague époque où le dinosaure dînait dans les marais de l'Orénoque, où le brontosaure brutal broutait des brouets répugnants, où le ptérodactyle enfin, ancêtre extrêmement voisin du sténodactyle ordinaire, ouvrait, pareil à Lucifer, des ailes de vieux cuir de veau dans un crépuscule indigo en faisant claquer ses mâchoires pour effrayer nos grands-parents. Différence fondamentale avec notre vie d'aujourd'hui, la boîte, mes seigneurs, n'existait pas encore. Boîte ! Je vous aime toutes, je vous aime. Vous vous suffisez à vous-même et jamais ne nous encombrez. Car pour ranger les boîtes...
Les boîtes ! Les boîtes ! On les met dans des boîtes !
Et on peut les garder.
Babylone 21-29, voulez-vous me passer Brigitte?
Ah, c'est une erreur, il n'y a pas de Brigitte ici.
Babylone 21-29, je voudrais parler à Brigitte.
Ah, c'est une erreur, il n'y a pas de Brigitte ici.
Quería hablar con la señorita Brigitta.
Nada, Brigitta, ici, señor.
Dites, c'est Rodolphe, je voudrais seulement parler à Brigitte.
Mais y a pas plus de Brigitte que de... c'est ça, au plaisir. Hein.
Brigitte, elle est, je voudrais lui dire un mot.
Eh ben, vous savez ce que je vous dis, à vous, je vous dis.
Brigitte, y a pas de message pour moi?
L'abbé Chauvinard va maintenant vous parler de son expérience auprès de ceux à qui il a permis de retrouver les voies du Seigneur.
Bien, chers frères, j'étais venu ici dans l'intention de vous lire une lettre de saint Paul adressée aux Corinthiens. Mais le temps me faisant défaut, je ne pourrai pas vous lire toute la lettre adressée par saint Paul aux Corinthiens, et je me contenterai de vous lire la fin de la lettre de saint Paul aux Corinthiens. Veuillez agréer, chers Corinthiens,
ça vient du fond de... Ça vient du fond de la vallée. Bien avant que ça passe le gué de la rivière, que l'ombre tranche comme un lent clin d'œil, le brillant de l'eau entre les iscles, nous savons que c'est un homme. Nos corps vides de femmes sans mari se sont mis à résonner d'une façon qui ne trompe pas. Nos bras fatigués s'arrêtent tous ensemble d'amonteiller le foin. Nous nous regardons et chacune se souvient du serment. Nos mains s'empoignent et nos doigts se serrent à en craquer les jointures. Notre rêve est en marche, glaçant d'effroi et brûlant de désir. L'homme monte. Il marche d'un bon pas. Pourtant sa marche paraît lente, douloureusement lente pour nos nerfs à vif. Pour tuer ce temps qui nous torture, nous redoublons d'élan dans le travail. Fourches et râteaux dansent une gigue qui grossit rapidement les tas de foin. Nos bras s'agitent sans que nous soyons en eux. Tous nos sens sont ailleurs, tendus vers lui. À chaque fois que l'homme trécoule derrière un repli du terrain, je me demande si je n'ai pas rêvé ou s'il n'a pas simplement décidé de rebrousser chemin. À chaque fois, je me tourne vers mes compagnes et je lis sur leur visage la même angoisse que la mienne. Le temps nous presse, nous oppresse. Bientôt, nous avons l'impression que ce temps nous crie après. Nous étions installés calmement dans l'attente, bercés dans la certitude qu'un homme viendrait. Et voici que la proximité de cet homme bouscule notre patience et transforme la bonne chienne qu'elle était, couchée à nos pieds, en une louve affamée. Depuis plus de 2 ans, nous n'avons plus vu d'homme. Les derniers, les nôtres, sont partis en février 1852, raflés par les gendarmes qui les poussaient de leurs fusils. Ces gendarmes étaient ceux du tout nouvel empire de Louis-Napoléon Bonaparte, parricide de la Deuxième République, dont il avait été le président. Ils étaient à peine partis que dans le vallon, sous le bois du Défend, les fusils ont claqué. Martin et son ami Antoine Jean ont été tués. Ils avaient tenté de s'enfuir. Mon père aussi est mort, aux îles du Salut, condamné à la transportation à perpétuité au bagne de Cayenne, parce qu'il était un chef, parce qu'il était dangereux, parce que les assassins de la République avaient décidé de réprimer sauvagement ceux qui la défendaient. Les autres ont été transportés en Algérie, mais tout cela, la mort du père, les déportations, nous ne le saurons que bien plus tard, lorsque les premiers transportés du village reviendront d'Algérie. Martin était mon amoureux, mon promis. J'avais 16 ans et demi lorsque le malheur est arrivé. Lui en avait 18. Combien de fois l'avais-je boustigué depuis des années pour lui montrer mon attirance ? Une fois, une seule fois, je lui ai laissé caresser, à travers le tissu de ma blouse, mes seins de femme déjà prête à l'amour, déjà prête à se gonfler d'enfant. C'était le 20 décembre 1851, pour la fête du solstice d'hiver qui salue la fin des jours qui raccourcissent. Le soir, nous avions dansé autour du feu, malgré la tristesse de l'échec du soulèvement républicain. Ce même jour, mon père, notre mère, n'a pas voulu organiser le vote demandé par le nouvel empereur pour nous faire plébisciter son coup d'État. Le village était en colère, seuls des bulletins oui avaient été imprimés par l'administration de l'illustre prince. Comme tous les hommes qui étaient revenus moins de 10 jours avant de la bataille victorieuse des républicains du département, au mai, contre le bataillon du 14e léger, Martin avait bu beaucoup pour oublier l'humiliation de la République renversée, la peur, la répression qu'on imaginait sans en connaître le visage. Moi, je pressentais des temps mauvais et j'avais décidé d'avouer vite mon amour et mon désir. Dans la grange de son père où je l'avais entraîné, j'ai appuyé ma bouche sur la sienne. Il sentait le vin, mais j'ai aimé le goût de cet homme que j'étais décidé à prendre. Martin et Antoine Jean sont les 2 seuls hommes que nous ayons gardés, 2 hommes morts, 2 corps jeunes que nous avons enterrés dans la mer de Galets. Personne depuis février 52 n'est monté au village. Au début, nous les avons attendus. Nous attendions de pied ferme les représentants de l'Empire, de la morale, de la religion. Nous attendions les prédicateurs et les soldats de tout poil. Nous n'étions que femmes et enfants et nous savions que nous devrions nous défendre contre ces 2 familles de prédateurs des faibles. Nous attendions surtout cette moitié de notre humanité qui avait été arrachée à notre terre, à nos murs, à nos cœurs. Moi, après des jours de cris et de pleurs, j'avais transformé ma douleur en haine et en violence. Je graissais mes fusils, je poudrégeais et les autres faisaient de même. Chaque femme du village avait appris auprès de son père, lorsque l'âge ne faisait pas encore de différence entre fils et garçons, à doser la poudre et à tirer. Le garçon manqué que j'étais aimait les armes. Le premier tir avait été une révélation. Peine perdue que nos entraînements militaires. Personne n'est venu. Comme si l'opprobre s'était refermé sur notre communauté, comme si la quarantaine des grandes pestes nous enveloppait d'un manteau de brouillard pour nous cacher du reste du monde. Nous ne savions rien, nous ne savions pas si les hommes emportés étaient encore en vie. Personne ne venait vers nous. Nous ne sommes pas allés vers les autres non plus, par peur, par crainte de découvrir qu'au-delà de l'horizon de nos terres, il n'y avait peut-être rien d'autre que le silence et la mort. Nous n'avons plus bougé du village, noyés volontaires par les travaux qu'exigent de l'aube à la nuit profonde les becs ouverts de nos enfants, de nos bêtes et de nos champs. Le 1er mai, au bout de plusieurs mois d'attente vaine et étouffante, Rose, la fille du boulanger, a sorti sa robe de novi. Cette robe n'était rien de plus que sa plus belle robe. Je me souviens qu'elle était bleu foncé et qu'elle me faisait envie. Elle en a habillé un épouvantail qu'elle a planté au bord du plateau. Je me souviens qu'elle pleurait de rage. Sur le col de la robe, elle a noué le modeste collier de fleurs d'oranger en cire que la famille avait arraché à sa pauvreté. Nous autres, Nous n'avons rien tenté pour l'en empêcher, mais nous avons partagé ses larmes jusqu'à nous en cuire les yeux et le visage. Rose aurait dû se marier en avril. Alors la mère du garçon qui aurait dû épouser Rose est allée chercher les vêtements de mariage de son fils et en a fait un deuxième épouvantail, qui a pris la manche du premier. Depuis, notre village de femmes vit sous le regard de ce couple qui n'a jamais été et dont les deux silhouettes immobiles tournent le dos à la vallée. C'est notre signe pour dire qu'ici, il y a la vie. Cet homme qui court lentement vers nous est donc le premier. Je serre la pomme qui se trouve dans ma poche. Je l'ai ramassée verte en partant ce matin parce que tombée de l'arbre en plein mois de juillet. Je serre cette pomme lisse avec sa robe tachée, comme d'un coup d'aiguille, de la marque du verre qu'il a faite. Je caresse cette pomme que j'ai fait briller et je pense à Ève. Soudain, j'ai envie de croire à ce mythe et d'être la première femme. Il nous faut attendre près d'une heure avant que l'homme ne se présente à l'orée de notre champ. Nous le regardons et il nous regarde. Il a suspendu sa marche et tous nos gestes. Il sourit et je crois que la tension crispe seulement nos visages. Lorsqu'il fait un pas supplémentaire vers nous, nous nous baissons vers l'ouvrage. Soudain, sa main se pose sur mon bras pour l'arrêter. Je le regarde et dès cet instant, je sais que j'appartiens à cet homme. Je sais dans le même temps que je vais devoir le partager.
Voyez cette plume ? Eh bien, c'est une plume d'ange. Oh, rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois, mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux. Que vois-je ? Dans l'obscurité de ma chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi. Un ange réglementaire avec ses grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule, il tire une plume, il me l'attend et il me dit « C'est une plume d'ange. Je te la donne. Montre-la autour de toi. Qu'un seul humain te croie. Et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croie avec ta plume d'ange. Adieu, et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. » Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Dans le noir, je restais longtemps, illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les seins somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde, regarde cette plume. C'est une plume d'ange, oui, un ange était là, il vient de me la donner. Oh, ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, hein, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies et tu vas voir le monde. La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit « Fous-moi la paix, je voudrais dormir et cesse de fumer ton satané Népal. » Elle me tourne le dos et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr.
je montrai ma plume à l'Afrique, aux poubelles et bien sûr aux pigeons qui me firent des roucoulements de considération admirative. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André ? Qu'on me prenne au sérieux et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédiction guerroyante et funeste. À dégager, fini la souffrance, la sottise, la joie, la lumière débarque. André se massait pensivement la tempe. Il me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine et devant un café m'expliqua que moi, sensible, moi enclin au mysticisme sauvage, moi devais reconsidérer cette apparition. Le repos, l'air de la campagne, avec les oiseaux précisément, les vrais. Je me retrouvais dans la rue grondante, tenaillant la plume dans ma poche. Que dire? Que faire? Monsieur l'agent, regardez, c'est une plume d'ange. Et il me croit. Aussitôt les tonitruants troupeaux de bagnoles déjà hargneuses s'aplatissent. Des hommes radieux en sortent, auréolés de leur volant, et s'embrassent en sanglotant. Soyons sérieux. Je marchais, dévorant les visages. Celui-ci, la petite dame, est soudain, évidente, éclatante, l'idée m'envahit. Abandonnons les hommes, adressons-nous aux enfants. Eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants, oui, oui, mais lequel ? Je marchais toujours, je marchais encore. Je ne regardais plus la gueule des passants hagards, mais en moi, des guirlandes de visages d'enfants, mes chéris, mes fériques, mes crédules me souriaient. Je marchais, je volais, le vent de mes pas feuilletait Paris. Pages de pierre, de bitume, de pavé, maintenant. Ceux de la rue Saint-Vincent, les escaliers de Montmartre. Je monte, je descends. Et je me fige devant une école, rue du Mont-Cenis. Quelques femmes attendaient la sortie des gosses. Faussement paternelle, j'attends, moi aussi. Les voilà. Ils débouchent de la maternelle par fraîche bouffée, par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimousses en minois, qui étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jais, un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement. Puis elle reprend son cartable orange, tout rebondi de mathématiques modernes. Alors j'ai suivi la boule brune et bouclée de sa tête, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques cent mètres, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps je suis resté là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école, et le surlendemain, et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny. Mais je ne me décidais pas à l'aborder. Et si je lui faisais peur avec ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale, alors qu'est-ce que je fais? Je me tue? Je l'avale ma plume? Je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste? Et puis, un jeudi, je me suis dit, je lui dis. Les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité mon pas, j'ai tendu ma main vers la tête frisée. Au moment où j'allais l'atteindre, sur ma propre épaule, une pesante main s'est abattue. Je me retourne, ils étaient deux. Ils empestaient le barreau. Suivez-nous. Commissariat. Vous les connaissez un peu, les commissariats? Les flics qui tapent le carton dans de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant. Il roulait pas les mécaniques, mais les airs.
Asseyez-vous. Et il me semble déjà vous avoir vu quelque part, vous. Alors comme ça, on suit les petites filles?
Quitte à passer pour un détraqué, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, j'en suis certain, m'aurait cru. Les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coup dur, tout ça, c'était fini, envolé.
Voyons l'objet,
me dit le commissaire. D'entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme.
C'est de loi, ça, me dit-il. C'est pas de la colombe, en tout cas.
Ça y est, j'ai trouvé. Vous ressemblez étonnamment à l'inspecteur Colombo. Monsieur, ce n'est pas de loi, c'est de l'ange, vous dis-je. Calmez-vous, calmez-vous.
Mais vous avouerez tout de même qu'une telle affirmation exige d'être appuyée par un minimum d'enquête, à défaut de preuves. Enfin, écoutez, vous allez patienter un instant. On va s'occuper de vous. Gentiment, oui, gentiment.
On s'est occupé de moi, gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme, très beau. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc, devant un cèdre du Liban. Parfois, il étend lentement les bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. Ah, j'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout connu, compris, appris, senti, perçu, percé, c'est peu dire. De sa barbe massive, un peu verte, aux poils épais et tordus, le verbe sort, calme et fruité, abreuvant un récit où toutes les mystiques, les musiques, les philosophies, les sciences humaines, les ésotérismes s'unissent, se rassemblent pour se ressembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, saut, je descends, saut débordant de l'eau fraîche et limpide de l'intelligence, allié à l'amour, je remonte. Parfois il se tait et me contemple en souriant. Des plis de sa robe de bure, il sort des noix, de grosses noix qu'il brise d'un seul coup dans sa paume, crac, pour me les offrir. Un jour où il me parle d'ornithologie comparée entre Olivier Messiaen et Charlie Parker, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet humain qui peut croire à ta plume, cet humain introuvable, eh bien oui, c'est lui. Il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors ma plume. Les yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds.
Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, ami.
Alors, vous me croyez? Vous le savez.
Parbleu, je vous crois. Le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes, on ne peut s'y méprendre.
Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une peine d'Angelus Maliciosus.
Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme me croyant, le monde est sauvé.
Je vous arrête, ami. Je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme, nullement. Je suis un noyé. Vous vous êtes noyé? Non, je suis un noyé. L'arbre, je suis un arbre. Il y eut un frisson de l'air. Se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard. Et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois, l'oiseau, le vieillard et moi, nous avons ri. Nous avons bien ri. Nous avons ri longtemps, longtemps. Le fou rire, quoi. Le fou rire.
C'était l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Cette émission est proposée et réalisée par James Fontaine,
Nathalie Vautier,
avec Christophe Becquereau à la technique. Vous avez entendu des textes de Raymond Devos, Jean-Yann, William Faulkner, extrait du recueil Ma chère maman, Patrick Fishman, extrait des contes des sages gardiens de la terre, d'Albert Camus, Prométhée aux enfers, de Boris Vian, de Violette Ayot, de Claude Nougaro, des musiques et des chansons de Gainsbourg, de Léo Ferré, de Ray Cooder, d'Arnaud, de Charles Trenet, de Marc Itzad, de Ma pauvre Lucette, d'Éric Satie, de Reggiani. Nous nous retrouvons le dernier jeudi de février, le 22, à 18h30. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder tes volets fermés.